Bonjour à toutes et à tous, je suis Myriam Septi, fondatrice et rédactrice en chef du magazine Diptyque. Depuis Casablanca, Diptyque explore l'art contemporain d'Afrique, du monde arabe et de leur diaspora, à travers une revue trimestrielle, une édition digitale, une newsletter hebdomadaire et un compte Instagram qui prend au quotidien le pouls des scènes artistiques du Sud. Autour de moi, une équipe d'auteurs, de critiques et de journalistes parcourt les foires, les ateliers, les musées, les biennales, les résidences. De Dakar à Marrakech, de Londres à Dubaï, de Lagos à Venise, ils rapportent des histoires multiples, sensibles et connectées. Avec le podcast Diptyque, nous prenons le temps d'écouter les personnalités, artistes, curateurs, collectionneurs, galeristes ou penseurs qui animent ces scènes artistiques. Ensemble, nous parlons bien sûr esthétique, processus de création. Nous parlons aussi d'engagement, de transmission et de circulation. Souvent aussi, nous abordons les difficultés à faire exister ces projets ambitieux dans les contextes socio-économiques de nos pays. Dans ce podcast, comme dans tous les projets éditoriaux de Diptyque, nous travaillons à la construction de nouveaux récits des Suds, des récits où les voix africaines et arabes dialoguent avec le monde. Dans chaque épisode de cette série, j'ouvre un espace de conversation libre, sans filtre, où la pensée se tisse avec le réel. J'établis toujours une trame de conversation, mais que je laisse volontiers déborder pour faire advenir quelque chose d'inédit. Ce podcast est réalisé avec le soutien de l'Université Mohamed VI Polytechnique, une université marocaine d'avant-garde, dédiée au développement de solutions innovantes pour répondre aux défis de l'Afrique et aux enjeux mondiaux. Bienvenue dans le podcast Diptyque. Aujourd'hui, nous sommes à Somerset House, en pleine 154 à Londres, et j'ai l'immense plaisir de recevoir Léonard Pongo, qui est un artiste que nous suivons beaucoup dans les pages de Diptyque et auquel nous consacrerons bientôt un portfolio, j'espère. Donc Léonard Pongo est un artiste visuel congolais. Il a une magnifique installation au niveau du bookshop de Somerset cette année. Donc cet artiste mêle dans son langage photographie, installation et mythologie visuelle et mémoire. Son œuvre explore la représentation du Congo, ses paysages, ses images multiples. Nous parlerons de ses projets, de celui-ci en particulier, mais de tous ses autres projets, et de la tension entre beauté et politique. Nous parlerons des défis d'une pratique visuelle engagée. Léonard, bonjour.
Bonjour Myriam, merci beaucoup pour l'invitation.
Merci d'avoir accepté d'être mon invité aujourd'hui. Donc on va démarrer peut-être avec cette magnifique installation à laquelle on a consacré une petite vidéo que vous trouverez sur nos réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, on va essayer d'en parler d'une manière un petit peu plus appuyée. J'aimerais que tu nous expliques à travers ce Primordial Earth, qui était un passage d'abord de The Uncanny Primordial Earth, comment tu passes d'un ancrage documentaire à une écriture allégorique, sensorielle et cosmologique. Voilà, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi donner au paysage la place pratiquement d'un personnage. Et en quoi la bascule vous a libéré de l'explication pour privilégier l'expérience. Tu parles beaucoup du fait que voilà, c'est des œuvres qui doivent se vivre beaucoup plus que s'expliquer. Mais là, on va quand même essayer de les expliquer. On t'écoute.
Je vais essayer d'expliquer la démarche, mais on va voir pour les œuvres.
On montrera l'image, de toute façon.
Alors, merci pour cette question. C'est effectivement... Un élément qui peut être parfois assez frappant pour des gens qui découvrent mes différents projets, de voir qu'il y a des approches visuelles et une esthétique très différente entre The Uncanny et Primordial Earth. Et pour moi, c'est une question extrêmement pertinente parce que l'évolution, le changement, le passage d'un projet à l'autre, sont le reflet de, je pense, une bonne partie de mon évolution en tant qu'artiste visuel. Et qu'en fait, les projets sont une bonne expression, un bon exemple de ce qui a constitué cette évolution-là. Moi, j'ai grandi, comme je pense beaucoup de diaspora, avec beaucoup de projections par rapport à la vie en RDC.
Tu as grandi en Belgique.
En Belgique. Oui. Et du coup, jusqu'au début de The Uncanny, en fait, mon rapport au Congo, il est imaginaire, on va dire. Il est basé sur l'étude en Sciences Po, la lecture, et relationnel. Car pas mal de mes oncles et tantes habitaient en Belgique quand j'étais petit, donc on avait ce rapport familial, mais on n'avait pas le contexte auquel il appartenait.
Vous n'alliez pas là-bas ?
On n'y allait pas entre les années 90, début des années 2000. C'était un contexte de guerre et de post-guerre et puis d'instabilité politique assez importante. C'était un voyage assez difficile. Mm-hmm. Or, comme toujours, il y a plein de Congolais qui voyagent, quelles que soient les conditions et qui ont voyagé. Nous, on n'avait pas ces possibilités-là, voilà, pour raisons sécuritaires et financières principalement. Et donc, ce rapport au Congo, il s'est construit par héritage, par transmission, des représentations de Congolais de Zaïrois, donc la génération d'au-dessus, qui nous ont transmis leur expérience à eux, parce que mes oncles, mon père, mes tantes, presque tous sont nés, ont grandi au Congo, avant d'arriver en Belgique pendant les années d'instabilité. Et donc, The Uncanny constitue ma confrontation avec le contexte, avec leur contexte. Et donc, cette confrontation-là, elle s'inscrit aussi dans une démarche où, au départ, j'étais beaucoup plus ancré dans la photographie documentaire et le photojournalisme, que j'ai pratiqué, que je pratique toujours, juste un peu moins fréquemment, mais toujours. Et donc, j'arrive dans le contexte congolais en 2011, pendant les deuxièmes élections démocratiques de l'histoire du pays, en me disant que je vais réaliser un document qui va expliquer les enjeux géopolitiques et sociaux du pays.
Tu étais parti pour faire un photodocumentaire.
Oui, un photoreportage, ouais. Vraiment dans la durée. J'avais prévu de rester. Je n'étais pas sûr au départ. Je suis parti, je pense, en septembre. J'ai fini par rentrer en décembre. Je me disais, oui, je me donne un mois ou deux ou trois, on verra.
C'était une commande pour un média en particulier ?
Pas du tout. Mmh. C'était vraiment en indépendant. J'avais travaillé pendant toute l'année précédente, pendant mes études. J'étudiais la photo et... Et j'avais économisé pour pouvoir réaliser ce projet-là, qui liait, comme toujours en fait pour moi, un aspect personnel et un aspect, on va dire, professionnel. Mon but étant, je vais passer du temps avec ma famille, mais en même temps, je vais réaliser ce documentaire. Et très vite, ma famille, certains membres de la famille, je les connaissais d'autre part, m'ont confronté avec le fait que tu viens de l'extérieur, même si tu es Congolais, tu viens de l'extérieur, tu arrives dans ce contexte et tu as déjà tes idées par rapport à ce que tu vas montrer sur nos vies, en fait. Et ben, nous, on vit à l'intérieur. Nous, on a un rapport au pays qui est différent. On a un rapport à ces élections qui est différent. On a un rapport à la vie politique du pays qui est beaucoup plus complexe que ce qui est montré dans les médias internationaux, qui est différent. Toi, si tu viens ici et que tu vas juste répéter les mêmes images et les mêmes narrations, celles qui sont portées par les médias internationaux, qui, eux, ont leurs propres intérêts, qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, tu vas juste jouer ce jeu-là, en fait, t'auras raté, ou en tout cas ce que tu raconteras, ce que tu raconteras fera pas sens pour nous, ça aura pas un sens congolais. Donc ça m'a beaucoup remis en question et j'aime bien décrire cette
sujet très intéressant qu'on a beaucoup traité par rapport aux artistes de la diaspora marocaine. Quand ils reviennent au Maroc, ils se retrouvent confrontés exactement à cette approche diaspora de l'intérieur. Un vrai sujet.
Et je pense à l'intérieur de la famille marocaine comme à l'intérieur de la famille congolaise.
On t'a dit, tu comprends
rien.
Ça
peut se passer voilà, avec le même amour qui est partagé par des séries de claques très franches et très honnêtes, mais qui est pour moi une force incroyable. Alors certes, c'est déstabilisant, mais moi, ça m'a amené à me questionner, OK, j'ai ces outils dans ma pratique. Il faut que ma pratique, elle évolue pour matcher le contexte. Et du coup, ça m'a poussé à... En fait, j'ai réintégré des parties d'approche visuelle, donc plutôt du journal, quelque chose d'assez personnel et d'assez proche de comment je me sentais, mais aussi des contextes dans lesquels j'étais, assez poreuse en fait, une pratique poreuse de l'image qui a très fort intégré toutes les erreurs et toutes les fautes photographiques pour essayer de traduire en fait ce ressenti-là et cette expérience. Donc déjà ce moment clé, on va dire les 3-4 premiers mois en RDC fin 2011, il me pousse à intégrer le ressenti comme un élément de construction d'un narratif, avec cette idée que l'image peut encapsuler du ressenti et du coup peut être une façon pour une audience qui regarderait ces images de se connecter avec ce ressenti et donc avec le contexte. Et donc ça peut être porteur de sens. Et ça a construit et fait évoluer vraiment toute cette série, The Uncanny, qui a fini par être publié il y a 2 ans, par Ghostbook, qui sont ici basés à Londres. Et au fur et à mesure que le projet évoluait, je me suis de plus en plus ouvert à essayer d'intégrer des espaces différents. Donc au départ, j'étais vraiment dans la cellule familiale, à la parcelle familiale au Borev, à Barumbu, à Kinshasa. Et puis j'ai voyagé pour passer un mois aussi au Kasaï, là d'où vient ma famille, à Kananga. Et puis je suis revenu, j'ai continué le projet. Et j'ai continué cela au fur et à mesure des années, jusqu'en 2017-2018, en commençant aussi à me dire ce besoin d'accumulation d'expérience. Je suis en manque d'expérience, parce que le contexte, c'est par l'expérience physique, émotionnelle, intellectuelle, mais par tous les niveaux d'expérience possibles, que je peux m'y reconnecter et en avoir une compréhension, me mettre en adéquation en fait, avec le contexte congolais, l'apprendre. Du coup, pour sortir de la sphère familiale, j'ai commencé à travailler avec des médias locaux, qui ne sont pas des médias qui sont diffusés internationalement, mais de la même façon, je me suis dit, mais ce qui constitue le quotidien des Kinois, le quotidien des Louchois, le quotidien des gens de Kananga, c'est documenté en fait, par des gens qui font très bien leur boulot. Ce sont plein de journalistes exceptionnels, mais leur audience, ce n'est pas l'international. Et du coup, ça influence le type de narratif que vous portez. Et donc, c'était des petits événements qui se passaient, comme l'ouverture d'un marché, ou un accident quelque part, ou une manifestation de motards qui refusent le port du casque. Ça pouvait aller de tout à tout, mais surtout, ça m'amenait dans tous les recoins de la ville, de j'ai fait ça principalement à Kinshasa ou Lubumbashi. Ça m'amenait dans des endroits où la presse internationale ne regardera jamais. Et pour moi, c'était vraiment un coup de poker, mais moi, je me suis dit, si je ne regarde que les endroits qui n'intéressent pas, de manière sur la scène internationale, en fait, je vais pouvoir me connecter à tellement de lieux que ça va devenir pertinent de manière assez universelle. Parce que ça va raconter des histoires de vie et connecter avec un contexte de vie porté d'une manière très sensible et personnelle, mais qui touche tellement de personnes que du coup, c'est plus uniquement par rapport à moi non plus, et ça permet à une audience globale de se connecter. Et donc, c'était un peu ça le coup de poker de The Uncanny, qui a produit non seulement ce projet, qui est finalement entre documentaire et pseudo-subjectif et je ne sais pas trop quoi d'autre, mais ça a aussi modifié complètement ma manière de créer et mon rapport à l'image, qui a amené au projet en fait, qui suivent.
Est-ce que tu dirais que c'est là que finalement démarre cette nouvelle expérience de la beauté plastique, peut-être? Parce qu'en fait, on connaît surtout tes œuvres pour leur immense dimension esthétique. Et en fait, j'aimerais que tu nous dises de quelle manière, justement, la beauté dérègle le regard. Qu'est-ce qu'elle autorise dans ton travail? Comment tu t'es approprié ces notions dans ton travail? Et à quel moment ça intervient? Est-ce que c'est au moment de la série The Uncanny?
Je pense au moment de la série The Uncanny, ça me parle et ça me guide dans, non pas le... Parce que, on parle des photographes toujours avec une grande quantité de proportion de contrôle dans la création de l'image. Oui. Et en fait, pour être un peu plus basique par rapport à la description du travail, moi, je crée vraiment mes images n'importe comment. Je fais littéralement n'importe quoi. J'utilise juste l'appareil photo de façon assez basique pour essayer de capter des moments. Et ce n'est pas du tout mon approche. La prise de vue, elle n'est pas du tout, en tout cas pour ce projet.
Il n'y a pas d'intention particulière.
L'intention, c'est la connexion et le moment qui se passe, mais il n'y a pas une réflexion dans la construction des images, la manipulation du cadre. C'est quelque chose de beaucoup plus instinctuel. Et la sélection, le côté plus construit, il se passe dans deux étapes. L'une qui est l'interaction avec, d'abord, l'editing, la sélection des images et le choix de quelles images, même ratées, peuvent être porteuses. Et ensuite, le processus de retouche, on dit souvent pour le digital, mais en fait, pour moi, c'est le travail de l'image, comme quand, moi, j'ai appris en tirant en chambre noire, on tire une image, en regardant ce qu'il y a comme zone, ce qu'il y a dans l'image, ce qu'on veut mettre en avant, ce qu'on veut laisser un peu à l'arrière-plan, assombrir. Et cette lutte-là avec l'image, ce dialogue-là, il amène aussi à une interprétation. Et pour moi, l'esthétique, c'est ça qui est extrêmement important, c'est que l'esthétique peut être, si c'est une fin en soi, c'est une couche superficielle, pour une coquille vide, mais si c'est le contenu et une relation réelle avec un contenu, et le contenu, pour moi, ce n'est pas des images, c'est des gens, c'est des contextes, c'est des moments, ben, on sait ce qu'on veut mettre en avant et on sait comment on veut le mettre, parce qu'il y a un vécu qui est lié. Et donc l'esthétique, elle devient une manière, pour moi, c'est il y a un côté très subvertif, en fait, à utiliser l'esthétisation pour porter un propos. Et je pense que The Uncanny m'a poussé à développer ça encore plus par rapport au contexte familial, la vie de tous les jours et le ressenti d'une personne qui se confronte, d'un Congolais qui se confronte avec tout ça et qui essaye de vraiment récupérer ce manque d'expérience, en fait, ce manque de Congo en grandissant. Oui, vraiment.
Ce rattrapage.
Absolument. C'était une école et ça m'a tellement appris et ça a complètement, fondamentalement bouleversé aussi mon sens d'identité. Vers quelque chose, en fait, juste de beaucoup, pas forcément de plus figé et défini, mais de beaucoup plus complexe et avec une sorte de beaucoup plus grande liberté de s'associer à que ce soit des gens, des principes, des idées, et du coup d'aller choisir ce qu'on met en avant. Et ça m'a amené plus tard vers Primordial Earth.
Alors justement, donc j'aimerais qu'on parle un peu de la genèse de cette œuvre magnifique qui est une sorte de cosmogonie congolaise entre tradition, symbole. On l'a vu tout à l'heure. On a envie de dire si c'est la terre qui écrit l'histoire, de quoi elle nous parle. Donc, c'est une sorte de paysage un peu comme un livre ouvert. L'œuvre est superbe. J'aimerais bien que tu nous... Là, vraiment, tu peux y aller. Explique-nous comment tu as fait ce travail. Et on montrera des images pour les auditeurs, parce que vraiment, c'est sublime. Hein.
Ouais. Non, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir aussi que le projet parle, parce que pour moi, tous ces projets, que ce soit The Uncanny, que ce soit Primordial Earth, que ce soit les projets qui ont suivi Tales from the Source, le film qui est sorti l'an passé, ce sont des expérimentations absolues. Et donc, je ne commence jamais avec une finalité claire, mais je ne sais jamais non plus si ça va vraiment parler. J'ai juste l'espoir et je suis vraiment animé d'une conviction de ce que je veux faire, mais je le découvre en le faisant. Et dans le cadre de Primordial Earth, ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine façon, le photojournalisme m'a aussi amené à cette pratique.
Bon, ça m'intéresse de comprendre parce que ça a l'air assez paradoxal.
Et ça l'est absolument. Ouais. Je pense depuis 2010, j'ai travaillé comme photojournaliste, que ce soit pour des petites publications de plus grandes, que ce soit en assignment, en commande pour de la presse internationale, ou que ce soit quand je travaillais avec les chaînes de télé locales, où j'étais chez Communication Nalingala, qui est un journal de communication de news locale de Kinshasa en Lingala facile, dans un Lingala simplifié. J'étais invité aussi aux réunions éditoriales le matin, et cette inclusion-là, évidemment, ça m'a également formé. Mais ce processus-là de travailler comme photojournaliste, il m'a aussi amené à me rendre compte que les narrations qui sont portées par la presse internationale, elles sont cadrées sur des intérêts qui sont généralement externes à la RDC. Et ça implique une dissociation entre les environnements dans lesquels les narratifs sont construits et l'environnement congolais, ça amène à plein de problèmes qui sont très connus et très discutés, débattus en général. Mais moi, ça m'a amené aussi à une frustration en me rendant compte qu'il y avait des types de narratifs qui étaient répliqués presque automatiquement par rapport au Congo, qui avaient une tendance évidemment à du reportage de crise plutôt que du reportage de solutions.
Presque une banque de sujets, et puis on pick up un sujet, c'est toujours, il y a cinq sujets qui sont toujours les mêmes qui reviennent.
Et on fait un accroche en lien avec les intérêts stratégiques, économiques et politiques du pays où est basée la publication. Et donc, moi j'ai toujours attaché énormément d'importance à documenter, quand je travaille pour la presse, avec dignité et en mettre en avant les identités, les personnalités des personnes que je documente, ce qui se fait très simplement en prenant contact, en posant les questions, en demandant aux gens ce qui, pour eux, est important aussi, pas juste pour le sujet, en arrangeant les gens comme des éléments d'illustration, mais en fait en retournant le sujet et en demandant s'il est pertinent aux personnes, parce que les personnes qui sont impactées par une situation sont souvent beaucoup plus au courant de ces enjeux. que moi qui viens de l'extérieur, même si je peux me documenter, même si je pose les questions. Et donc, il y a énormément à apprendre dans ça, mais ça, pour moi, ça reconfigurait mes commandes. Et ça me permettait aussi souvent de proposer des images différentes qui n'étaient pas forcément attendues par les rédactions et qui peuvent être tout aussi intéressantes, si pas plus. Et donc, en 2017, il y a un conflit qui sévit dans le sud du Congo. C'était un conflit entre l'État congolais et un groupe qui s'appelle les Kamina Nsapu, après que l'État ait attaqué un chef traditionnel. Et suite à ce conflit, il y a eu un déplacement interne qui a plus de 2 millions de personnes dans tout le Kassai jusqu'au nord de l'Angola. Et c'est chez moi. Et donc, pour moi, c'était primordial de documenter ça. Mais à l'époque, il y avait encore très peu qui était fait. Il y a une journaliste de RFI, Sonia Rollet, qui a fait un travail magistral de documentation de tous les enjeux, en fait, de cette crise, de ce conflit. Et quand moi j'ai contacté la presse à l'époque, il y avait très peu d'intérêt. J'ai eu une réponse d'une éditrice qui m'a dit « Écoute, c'est super intéressant comme sujet, c'est effectivement nécessaire d'en parler. Malheureusement, ce n'est pas aligné avec nos intérêts stratégiques pour l'instant, donc on ne peut pas en parler. Enfin, on ne peut pas t'y envoyer. » Et une éditrice m'a recontacté en me disant « Écoute, il nous reste un peu de budget, je t'envoie. Moi, je vais proposer de faire et l'écriture et la documentation visuelle. On t'envoie, vas-y, tu as carte blanche. » Et donc, je suis parti pour retrouver un Kananga que je n'avais plus vu depuis 6 ans et en situation de crise complètement transformée avec des personnes qui venaient de toute la zone de Chikapa, de vraiment, on va dire, un cercle de 100-150 km autour de la ville qui s'étaient réfugiés là-bas. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que dans ces contextes de crise, beaucoup de personnes qui ont toujours une connaissance en fait, des pharmacopées traditionnelles, de l'agriculture simplement, du contexte, se sont débrouillées en fuyant les zones de conflit, en se réfugiant dans le contexte qu'ils connaissent encore suffisamment pour pouvoir en survivre. Et dans une autre mesure, les chefs traditionnels, qui sont les chefs qui détiennent les terres, ont fait un travail énorme d'accueil de population pour pouvoir les loger et les nourrir. Et donc, pour moi, ça a vraiment activé quelque chose. Je me posais la question depuis longtemps de comment représenter la terre, comment représenter l'environnement naturel au Congo. Je me rends compte qu'en fait, il y a toujours tellement de connaissances de cette terre, de cet environnement-là, qui est détenu par simplement la population, par une capacité à évoluer dans son environnement et à le lire. Et ça m'a très fort motivé à me lancer, à me dire « Ok, maintenant, il faut l'aspect traditionnel ». Il faut que ce soit un aspect primordial pour mon prochain projet. Sans ce contexte, sans cette possibilité de lecture de leur contexte, les personnes qui ont survécu ici n'auraient pas pu survivre. Mais avec ce déplacement, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème de perte, d'acculturation, qui est déjà dans l'histoire de la RDC et dans l'histoire de la colonisation belge au Congo. L'acculturation était une méthode de enslavement presque, de contrôle et de social design, de autant que faire se peut amoindrir la puissance des constitutifs traditionnels de la société. Et donc pour moi, ça m'a vraiment alerté en fait, et ça m'a très fort choqué de voir ce contexte-là où les gens qui fuyaient, où les gens qui s'étaient cachés pendant les conflits, c'était mes petits frères, mes petites sœurs, mes yaya. Et donc ça m'a vraiment poussé à me dire « Ok, il faut que je documente ce contexte aussi, mais aussi ce qu'il porte. » Et une fois de plus, ça a influencé ma manière de créer des images, où ça m'a poussé à... Autant avant, j'essayais d'encapsuler de l'expérience dans les images. Là, je me suis dit « Oui, certes, il y a l'expérience, mais il y a aussi qu'est-ce que ça peut porter comme signe. Si je suis dans tel contexte, quels sont les contextes importants traditionnellement ?» Et quelle est la connaissance que ces contextes l'apportent. Et donc ça, c'était en 2017, ça a engagé toute une réflexion par rapport à la terre, à ce qu'elle porte, mais aussi aux lectures que les populations ont eues de cette terre, et donc à la connaissance qui en a émergé. Et comme tu le dis, cette idée que en fait, le contenant de ces connaissances, ça, c'est la terre, c'est une entité en soi, c'est une conscience en soi. La question, après, ça a été comment... Je la lis et comment je peux...
Comment la faire parler?
Oui, oui. Pas la faire parler, comment dialoguer avec et qu'est-ce que je peux produire comme forme qui résulte de ce dialogue-là et qui sont pas forcément représentatifs mais alignés aux mêmes pensées que les pensées qui en ont émergé, les pensées traditionnelles. pour mettre en avant un héritage, certes, un héritage des cultures congolaises qui sont si diverses, mais aussi de leur lecture, de leur contexte, mais aussi pour mettre en avant une narration du Congo ou des Congos qui est basée sur comment les Congolais la lisent. Donc, il y a, encore une fois, il y a cette volonté pour moi de faire, de porter un narratif qui est lié à des éléments qui est endogène et, on va dire, égoïstement parlant, qui m'aide moi à me connecter encore plus avec ces connaissances-là, tout en essayant de les valoriser, en fait.
Et du coup, comment tu as travaillé cette œuvre importante ? Tu peux nous redire en quelques mots, même si je t'ai entendu tout à l'heure dans la vidéo.
Oui, bah du coup, on en a moins parlé dans la vidéo, mais en fait, c'est par beaucoup de marches et de conversations, en posant énormément de questions, en demandant à mes oncles, à mes tantes, en travaillant avec des zones de protection, de conservation, et en...
C'est quel type de paysage naturel ?
Les types de paysages naturels de la RDC, c'est tous les types.
Alors là, mais ceux de Primordial Earth.
Dans Primordial Earth, il y a des images qui sont prises dans la forêt équatoriale, dans le parc de la Salonga. Ouais. Le parc de la Salonga, la forêt équatoriale congolaise, elle fait les deux tiers de l'Amazone, donc c'est le second poumon de la planète, mais beaucoup moins documenté. Donc on va de la forêt équatoriale, il y a des images ou des créations qui sont basées sur... des images du Nyiragongo qui se trouve à presque 2000 km à l'est de la forêt équatoriale, au-dessus de Goma, là où il y a les conflits en ce moment et où le M23 et le soutien rwandais sont en train de recoloniser la RDC. Ben, au-dessus de la ville de Goma, on a le Nyiragongo qui est le volcan le plus actif d'Afrique. J'ai eu la chance d'accompagner les scientifiques qui allaient faire le reporting de l'activité du lac de lave. Il y a un lac de lave qui peut aller jusqu'à 100 mètres de large. Et on a passé presque une semaine sur le cratère.
C'est vrai que c'est très volcanique, l'œuvre.
Cette dynamique. Ça m'a énormément impacté d'être dans un contexte qui est si riche, qui tonne, qui boue en permanence et qui est en connexion directe avec la planète. Ensuite, il y a des images qui sont prises dans le parc de Lupemba, qui se trouve au Katanga. Et donc, ce parc-là, ils m'ont accueilli plusieurs fois, donc dans le sud-est de la RDC. Et puis, il y a encore, évidemment, des lieux qui sont au sud du Congo, au Kasaï, donc là d'où vient ma famille, où j'ai eu l'opportunité de voyager. C'était pour moi primordial d'arriver au village de mon grand-père, à Dibaya, et ensuite il y a encore des images qui ont été faites autour de Kinshasa, donc au sud-ouest, comme la tapisserie qui est montrée, qui a été prise à Mbanzangungu, qui se trouve à un peu moins de 150 km de Kinshasa en allant vers la mer, vers l'océan. Et donc le processus, ça a été beaucoup de marcher, d'interroger, de faire beaucoup de recherches, de lire beaucoup, notamment le travail d'une ethnolinguiste extrêmement importante, dont le travail compte tellement, qui a fait tout un travail d'analyse des signes et des traditions de toute l'Afrique subsaharienne. C'est Clémentine Faik Nzouji. Donc voilà, je tiens absolument à ce qu'elle soit reconnue parce qu'elle a réalisé un travail pendant 30 à 40 ans incroyable. Et donc, ce que j'ai fait concrètement, c'est armé de toutes ces lectures, de toutes ces questions, des réponses parfois simplement d'indications de mon oncle qui peut me dire « Va trouver la rivière Moyo. » Voilà. Et donc, d'arriver à Kananga.
C'est ça le brief.
C'est ça le brief. Et d'arriver à Kananga et de demander à mon yaya « Tu connais la rivière Moyo ?»« Ah, non, mais on va demander à ta... »
Il
n'y
a pas des problèmes de toponymie ? Est-ce que tout le monde appelle les choses de la même manière ou chacun? Parce que nous, par exemple, au Maroc, il y a beaucoup de questions de toponymie. Vous arrivez dans un coin, vous demandez tel truc, il est appelé comme ci sur les cartes, autrement par les gens locaux, encore autrement par les guides. Il y a un vrai sujet sur la toponymie.
Alors, il y a un sujet très drôle. Beaucoup de lieux ont été nommés dans le contexte colonial. Et du coup, le nom qu'ils portent sont soit une représentation des constructions coloniales, soit faux, archi-faux. Oui. Donc on le trouve jusqu'au musée de Tervuren où certaines de leurs archives indiquent une personne comme étant un chef. Et on s'est rendu compte plus tard qu'en fait c'était juste quelqu'un qui a été mis là en disant « Oui, ils viennent faire la photo, te faire poser. » J'ai une grande chance, c'est que mes oncles, ils ont grandi dans ce contexte Et ils ont grandi là.
Donc, il y avait des guides de grande qualité, en fait.
Ben, c'est pas, je ne voyage pas forcément avec mes oncles, mais avec des grands frères et avec des indications de mes tantes qui, en fait, connaissent les noms réels. Donc, quel que soit le nom, en fait, personne ne regarde le nom sur les cartes parce que oui, tout le monde sait que c'est n'importe quoi. Et eux ne vont pas avoir le réflexe de juste prendre la carte sur Google Maps et me dire « Ah oui, c'est là ». Ils vont juste me dire, comme ça doit être dans ce contexte, va demander à telle personne qui t'indiquera vers où aller. Et quand tu arrives à la rivière, mais il y a des gens, tu peux parler avec. Et donc, c'est toujours... En fait, il y a toujours... L'humain est toujours essentiel pour moi parce que je n'ai pas toujours les clés des endroits dans lesquels je vais. Donc, mon but, c'est de l'apprendre. Et puis, une fois arrivé à la rivière Moyo, ben, c'est de simplement essayer de voir quel... C'est quoi l'environnement? Qu'est-ce qui me touche dans cet environnement? Qu'est-ce que je peux créer comme image avec l'appareil photo qui est la base du processus? Et une fois que je suis devant les images, de voir, mais en fait, qu'est-ce qu'elle comporte, cette image, comme texture, comme forme? À quoi ça fait appel au niveau de la pensée ancestrale, au niveau des narratifs? Cette rivière, elle représente ceci, elle représente le lieu où vivent telle personne, où c'est lié à tel ancêtre. Quelle serait la forme idéale pour matcher ça?
Donc,
tout mon travail, il se passe sur ça, cette expérimentation de forme et de matérialité. Ah oui, dans ce contexte, je pense que ce serait vraiment un bon match de passer par du tissage. Ok, en plus, ça correspond à telle façon de porter du signe, la tapisserie en particulier. Elle a des signes qui ressemblent fort à des signes de spirale, des signes assez répétitifs, un peu géométrisés. Ça, pour moi, ça peut faire un très bel appel par rapport au velours du Kasaï, qui est un élément porteur de tradition, de généalogie. Comment je vais pouvoir transformer cette image? Et là, je vais travailler avec d'autres personnes pour réaliser le design et la transformation textile pour arriver à une image qui porte toutes ces couches.
Donc, en fait, tu gardes toujours une approche de la complexité éthique du réel que tu traites sans te laisser happer par, j'imagine parfois, des images envoûtantes qui auraient leur place dans des cartes postales ou dans des reportages de Géo. Comment est-ce que tu fais pour garder j'imagine que quand tu es dans ces déplacements sur des territoires géographiques complexes avec une nature que tu m'as décrite juste avant, comment est-ce que tu gardes justement cette tension, cette complexité éthique?
La question ne se pose pas vraiment parce qu'en fait, quand je suis, je ne sais pas si je pense à Upemba, j'ai grandi en Belgique avec une mère ardennaise, donc on a passé toute notre enfance dans la forêt et dans le jardin, dans la nature. Et ma mère est extrêmement douée pour répliquer les chants d'oiseaux, les appeler, les identifier. Donc, mon rapport à la nature, il a à aucun moment été dans l'exotisation, que ce soit dans le contexte congolais, que ce soit dans les Vosges ou dans le sud de la Belgique, dans les Ardennes. C'est plutôt une curiosité. Et donc, typiquement, dans le contexte de Upemba, on était avec les gardes en train de... Donc, les gardes forestiers, les rangers, on était en train d'aller vers un endroit où ils pensaient qu'il y avait une chute d'eau. Et c'était un parcours intéressant parce qu'il y a des animaux, du coup, qui passaient. Et comme ils font du monitoring, moi, ils me proposent juste de me joindre à eux. C'est un peu la dynamique que je conserve. Juste, vous savez ce que vous faites, vous savez lire ce contexte. Est-ce que je peux venir avec vous? Et ça crée des synergies super intéressantes. En marchant, je m'arrête un moment parce que je vois une plante et qui me semble intéressante, qui a une odeur aussi. Donc, je pensais que c'était une plante qui avait une fonction. Je demande aux rangers, ils me disent effectivement, c'est une plante médicinale qui sert à ceci, cela. Et c'est plus ce rapport-là où de me rendre compte, ah mais tiens, ici, il y a on arrive à un endroit qui me semble avoir été une mare parce que c'était marqué comme si ça avait été humide longtemps. Je leur demande, ils disent « Ah oui, effectivement, après la saison des pluies, ici, c'est inondé. » Et du coup, en voyant ça, moi, je continue par curiosité à regarder ce qui se passe et on trouve il y avait un type de grenouille qui a une peau orange assez particulière qui n'avait pas encore détecté. Et c'est le simple fait de se laisser guider par la marche, l'intuition, la curiosité et l'intelligence des personnes qui connaissent ce contexte qui m'amène à voir des choses qui, dans ce cas-là, pour moi, la photo de la grenouille, elle est jolie, mais elle n'est pas du tout forcément porteuse. pour eux, ça leur permet de communiquer et de monitorer. Donc, c'est aussi un élément super utile. Pour moi, c'est important d'être aussi utile. Mais du coup, ça veut dire que pour moi, je n'ai pas du tout besoin de faire du calendrier avec des photos bien de sûr. Grenouilles. Mais que par contre, toute la logique de « Ah oui, mais ici, du coup, les mares, elles fonctionnent comment ?» Mais du coup, il y a quels animaux qui arrivent et comment eux, ils fonctionnent dans cet espace-là. Et une fois de plus, ce qui va m'attirer dans ce cas-là, ça va être sûrement la marque de l'eau séchée qui est partie, parce que ça ressemble à une certaine forme. Ou on va arriver dans un certain endroit parce qu'il y a la symbolique du bananier qui est très forte et très importante, qui est l'élément qui anime l'expo qu'on va faire à Project Loop, qui va ouvrir samedi.
Alors justement, peut-être une dernière question, on s'approche de la fin de l'épisode, une dernière question sur l'actualité de ton travail en ce moment, où est-ce qu'on peut le voir, quelles sont les étapes là, d'ici la fin de l'année?
Eh ben, ça va être cette nouvelle exposition solo qui va ouvrir Project Loop à Hackney, à Shoreditch.
Ici à Londres, non?
Ici à Londres.
Bon, il y a la grande installation là, de la 154, mais qui est visible jusqu'à dimanche. Mais l'épisode paraîtra, je pense, après la 154. Cette œuvre-là, évidemment, c'est une œuvre qui est dans une foire commerciale, donc elle risque d'être acquise. Mais est-ce qu'il y a une édition de cette œuvre qui est visible, qui sera visible dans une institution? Oui.
Alors, elle fait partie de la première édition sur deux de cette œuvre, la Mbanza Tapestry.
Oui.
Elle est dans la collection du Musée d'art moderne de Ostende, en Belgique.
Ah oui, donc ça, ce sera visible voilà, pour ceux qui veulent voir ce dont on parle, donc à Ostende, en Belgique. Et sinon, donc l'expo là, à Shoreditch. Oui.
Oui, donc à Project Loop, un des éléments vraiment essentiels, c'est ce regard sur un banana tree. Et sur un bananier qui est en fait une série de mélanges de verre, de transferts photographiques et de peinture qui crée une forme de constellation de miroir. En fait, c'est un mobile qui est marqué par l'image photographique, mais qui au final est une série de peintures miroir, on va dire. Et c'est le même questionnement d'être dans un contexte où je me pose la question de « Ok, il existe dans la tradition une lecture de l'environnement qui se passe sur plusieurs réalités et certaines sont visibles, d'autres pas. Comment je peux traduire cette multiplicité de la réalité dans un objet qui serait basé sur le bananier, qui est aussi un symbole de cycle éternel de renouvellement et qui est du coup hyper porteur, qui a un rapport au temps différent, qui est voilà. Eh bien, là, ça s'est fait dans une prise de vue qui s'est transformée au fur et à mesure du travail de la matière en un mobile. Bah, c'est tout ce travail-là d'être dans le contexte, d'être inspiré par un contexte et ensuite de chercher et d'interagir, de dialoguer avec la matière la même façon que j'ai dialogué avec la Terre et d'utiliser l'élément esthétique pour questionner la représentation de la manière qui sous-entend les fondements en fait, de la pensée traditionnelle telle que je les comprends. Et donc c'est toujours ce lien-là. Le contexte, il amène à des formes spécifiques qui portent, via l'esthétisation, un angle, une façon de le percevoir et de se raconter.
Merci beaucoup Léonard pour cet épisode très riche. Je suis certaine que les auditeurs voudront avoir des images. On mettra des liens vers les œuvres et vers des sujets qui te sont consacrés. Merci encore pour ce magnifique épisode.
Merci beaucoup pour l'invitation.